Vous n'êtes pas en train d'écouter Radio U. En fait, si.
Aujourd'hui, avec Radio U, nous sommes sur l'île d'Ouessant, avec Fréquence Mutine également, pour le festival Ilophone. Donc on a pris le bateau tôt ce matin, avec Brieux, Roman et Nico. Comment va l'équipe ?
Ben ça va super, et toi Quentin ?
Moi ça va très bien, la traversée s'est bien passée, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde.
C'était horrible.
Ah oui, il y avait un peu de houle, c'est vrai, pour la grenobloise.
Ah, très très bien, ouais. Ça a bougé, c'est vrai que ça fait partir tôt en partant de Brest, mais le Conquet c'est un peu plus court.
C'est vrai que c'est un peu mieux, moi je suis parti du Conquet, c'est plus pratique, il n'y a qu'une heure de traversée.
Et donc on va être tout le week-end sur l'île d'Ouessant pour le festival Ilophone. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez prévu d'aller voir ce soir ?
Moi je pense à peu près tout, hein. Moi j'ai très hâte de découvrir ce festival, ça va être la première fois que je m'y rends. Première édition pour ma part, donc bien hâte de découvrir ce beau festival.
Alors moi j'y suis allé plusieurs fois déjà, et c'est vrai que c'est un festival très sympa, donc ce soir ça va être Quinquis, Miossec, il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses à voir et écouter ce soir. Ouais.
Et normalement on aura tous les artistes de la soirée au plateau, et donc qui vont passer les uns et les unes après les autres. Mais on va commencer ce plateau avec Laetitia Sanquer. Bonjour.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée.
Ben, merci à toi d'être venue, merci beaucoup. Et donc toi, tu es venue avec une équipe de sourds et malentendants.
Exactement.
Et pour profiter de ce festival de musique. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu viens faire ici et c'est quoi ce projet ?
Alors, pourquoi celui-là ? J'ai déjà un lien très fort avec l'île. Mes deux fils sont ouessantins de par leur papa. Donc, je me sentais déjà très attachée à l'endroit. Et il y a 2 ans, je suis venue ici un peu par hasard sur le festival. Et j'ai découvert qu'il y avait 2 chansigneuses sur scène. Là, je suis tombée des nues. Je me suis dit, c'est pas possible. Ici, sur Ouessant, je trouve du chansigne. J'étais pas au courant. Donc, il y a dû avoir...
Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est le chansigne pour les auditeurs de Radio U et Fréquence Mutine ?
Le chansigne, c'est un art à part entière qui consiste à traduire en langue des signes les paroles du chanteur, de la chanteuse, et aussi à réinterpréter par le corps tout entier le rythme de la musique, les nuances aussi qu'on peut faire passer par le corps, et une forme de chorégraphie qui traduit donc les paroles du chanteur ou de la chanteuse. Voilà. Donc ça permet de rendre accessible la musique aux personnes sourdes et malentendantes qui, paradoxalement, peuvent tout à fait profiter aussi du son sous une autre forme.
Et donc, tu as vu ça il y a l'année dernière, c'est ça ?
Il y a deux ans, je suis venue ici, donc c'était un peu de dernière minute. On a trouvé des places comme ça, un peu par chance. Et puis, je découvre du chansigne. Et là, je me dis, waouh, c'est dingue, j'étais pas au courant. Alors que, dans le public, j'étais la seule qui pouvait vraiment comprendre, je crois, hein, en tout cas, les deux chansigneuses et deux artistes de la compagnie Les Didots en Cavale. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, que ça soit pas plus diffusé, que les sourds soient pas au courant. Donc, j'ai contacté Pauline Bourda, la présidente du festival, et je lui ai dit, mais ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Et à travers Signessence, l'entreprise que j'ai créée aussi pour l'accessibilité, j'ai proposé de gérer, de piloter une équipe de bénévoles sourds et de proposer un festival plus inclusif. Complètement à l'ouest, c'est très ouvert aussi, justement sur toutes les différences.
Excellent. Parce que complément à l'ouest, c'est l'organisation qui gère le festival, c'est ça ?
Non, c'est surtout le message du festival qui est en réalité géographiquement très très à l'ouest. Je crois que c'est le plus à l'ouest de France. Et puis c'est un clin d'œil au fait d'être un peu fou, mais en même temps avant-gardiste aussi et ouvert sur la nouveauté, sur des choses inédites comme ça.
Et là, les bénévoles que tu as contactés, ils viennent de loin ou ils viennent de la région?
Oui, certains viennent de Paris, de Versailles. Oui, il y a des gens qui viennent de loin, qui ont pris le train hier. Ils sont arrivés hier soir pour être, comme vous, de bonne heure, de bonne humeur sur le bateau ce matin. Et donc, oui, c'est vraiment chouette parce que voilà, j'ai diffusé une vidéo il y a quelques mois en disant, voilà, si vous êtes intéressés, je serais ravie de vous compter dans mon équipe de bénévoles sourds et malentendants. Voilà.
Et quelles vont être les fonctions, le rôle de ces bénévoles durant le festival ?
Eh bien, ils vont avoir plusieurs postes différents. Il y en a qui seront à l'accueil, d'autres à la banque pour transformer les euros en îlots. D'autres seront au restaurant, au bar aussi. Et puis, on va s'éclipser quand même tous pour quand même profiter du chant signe qui sera là, qui sera donné sur deux concerts. Un ce soir avec Mieux Sec à 21h et demain avec Candeur Cyclone à 21h30, je crois. Voilà. Mais pour le reste, ils occuperont différents postes comme les autres bénévoles. Et donc, il y a des petits panneaux un peu partout où on voit un mouton qui signe. C'est des dessins qui ont été faits par Élie. Merci d'ailleurs pour ça. Et qui informe sur comment dire bonjour, comment dire oui, non, à boire. Enfin voilà, des petits signes de base pour pouvoir se retrouver et pas être complètement perdu en face d'un bénévole sourd.
Et je me demandais, au niveau du chant-signe, quand on suit le concert, est-ce que on peut se mettre où on veut dans la foule et quand même comprendre les paroles, ou alors on a besoin d'être un minimum assez près quand même de la scène pour pouvoir percevoir?
Oui, pour un confort, c'est mieux d'être assez près. La langue des signes, c'est une langue visuelle, gestuelle. Donc, pour être plus à l'aise, il vaut mieux être au plus près. Au plus près, pourquoi aussi? Pour mieux ressentir les basses, les vibrations, les enceintes qui sont pas loin. Il faut savoir qu'en fait, nous, en étant sourds, parce que moi, c'est mon cas aussi, on ressent vachement les vibrations beaucoup plus peut-être parfois que les entendants. La peau tout entière devient en fait un organe sensitif fort. On reçoit vraiment les vibrations. Donc, ça fait partie aussi de tout ce qui nous permet de vivre la musique différemment, mais de la vivre quand même.
Et y a pas
plus
que...
près de la scène, c'est mieux, pour répondre à ta question.
Et il n'y a pas que du chansigne, puisque je crois qu'il y a aussi demain une balade contée. Où toi, tu vas traduire la balade, il me semble.
Alors, je vais la traduire, oui. En tout cas, je vais l'interpréter aussi un peu à ma façon. En effet, demain à 15h, avec Condine Morin, une femme vraiment incroyable aussi sur l'île, qui habite ici. Donc, elle propose déjà depuis longtemps des balades contées ici, à travers le paysage et toutes les légendes. Et donc, on va faire ça ensemble. Et je suis ravie aussi de pouvoir faire cette proposition. Exactement.
Et il y a aussi dimanche un atelier de signes à 14h.
Tu es bien au courant.
J'ai lu le programme.
C'est ça, dimanche à 11h, un petit atelier d'initiation à la langue des signes.
Si jamais il y a des festivaliers et festivalières qui nous écoutent, qui veulent se lever pas si tôt que ça le dimanche. Hein,
oui, 11h, oui, pour le coup, encore. C'est vrai que ça peut paraître un peu tôt. Et puis le nombre aussi est limité à 15 personnes, donc voilà.
C'est déjà complet.
On ne va pas accueillir tout le monde.
Non, c'est pas encore complet.
Pardon ?
Est-ce que c'est complet ?
C'est combien
Non, est-ce qu'il reste des places pour l'atelier ou...
Là, pour l'instant, j'ai aucune idée. Là.
D'accord.
Je viens d'arriver, moi aussi, un peu comme vous. J'ai géré pas mal de choses déjà. Je ne sais pas où ça en est au niveau des réservations.
Et je me demandais, est-ce que la langue des signes, c'est assez accessible ? Est-ce qu'au bout de, quelques heures, on arrive quand même à avoir une conversation ou à même comprendre ?
Oui, bien sûr. Après, c'est comme toutes les langues, en fait. Finalement, on est tous différents face à l'apprentissage. On peut très vite apprendre une langue, et puis pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Là, on passe pas par le même canal. On passe par le canal visuel, gestuel. Donc, on n'est pas dans le son du tout. On s'affranchit totalement de l'oreille. Donc, c'est vrai que c'est notre façon d'aborder une langue, notre façon d'aborder la communication. En un mois, en étant un peu tous les jours en contact des personnes sourdes, on peut déjà être à l'aise pour les bases.
Et toi, tu disais tout à l'heure hors antenne que donc tu lisais sur les lèvres parce que tu es sourde. Est-ce que ça aussi, ça se travaille assez facilement de pouvoir lire sur les lèvres pour comprendre ceux qui parlent ?
Il existe des cours de lecture labiale. Moi, j'ai pas eu besoin d'en faire, d'en prendre, parce que naturellement, j'ai appris à lire sur les lèvres un peu inconsciemment. Je commençais à perdre l'audition, mais je m'en rendais pas trop compte à ce moment-là, entre 18 et 19 ans. Et puis, mon cerveau, il a fait le switch. Il a vite compris qu'il fallait que je me passe aussi du son et que je fasse autrement. Donc là, j'ai un peu développé ça naturellement. Et puis après, la perte totale de l'audition à 25 ans, vraiment, j'entends plus. Et je me fais appareiller. Et là, aussi, c'est la prise de conscience de voir que ben, l'accessibilité, il y a encore pas mal de boulot. D'où la création de mon entreprise aussi pour pas attendre que ça tombe du ciel, mais qu'il y ait des choses qui se mettent en place et que je sois actrice de tout ça, quoi.
D'accord.
Et c'est important pour toi, justement, que des festivals comme l'Ilophone incluent les personnes sourdes et malentendantes?
Ah bah oui, parce que bon, bah déjà j'ai entendu avant, j'étais dans un univers hyper mélomane avant de faire l'audition, donc très très sensible à la musique. Et puis ben il y a l'avant, l'après, et je me dis mais en fait c'est pas possible que les personnes sourdes soient exclues aussi du monde de la musique, sachant qu'on a plein d'autres façons de ressentir la musique. Comme je disais tout à l'heure, il y a la vibration, il y a le chant signe, enfin il y a tout un tas de façons de ressentir la musique et de prendre plaisir. Donc pour moi, aujourd'hui, dans ma place d'ancienne entendante devenue sourde, je me sens un peu au milieu, je me sens un peu ce trait d'union. Donc voilà, ma place est là en tout cas de créer ce lien et de montrer que c'est possible. On peut être sourd, mais on peut aussi profiter d'un festival de musique.
Excellent.
Et oui, vas-y, je t'en prie, Quentin.
Et est-ce qu'il y a des styles de musique que toi, tu trouves plus facile à appréhender? Ou comment ça se passe, ça? Est-ce qu'il faut beaucoup de basses ou pas forcément?
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus des musiques avec des basses, plus des voix graves. Voilà, c'est plus les musiques, les sons que je perçois mieux en tout cas de mon côté, c'est les graves. Après, il n'y a pas une, mais des surdités. Il y a des gens qui perçoivent mieux les aigus et qui n'entendent plus du tout les graves. Donc moi, après, personnellement, oui. Après, je suis très éclectique en termes de style de musique, mais que je vais mieux ressentir aujourd'hui, c'est là où les basses sont quand même plus importantes. Donc ça peut être différents styles de musique quelque part, mais les basses présentes.
Et est-ce que même sur des musiques sans paroles, tu t'y retrouves aussi, tu arrives quand même à apprécier?
Oui, il y a encore des musiques instrumentales que j'apprécie beaucoup. Alors moi, je suis appareillée, donc j'ai un petit peu de son encore qui me parvient par l'oreille. Et puis, c'est les vibrations aussi en mettant l'enceinte un peu plus fort. Bon, les voisins n'ont pas l'air de s'en plaindre pour l'instant. Mais voilà.
Excellent. On dira à l'ingé son de monter un peu le son ce soir dans la salle. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis?
Bah écoute, moi je pense que ça va, j'ai à peu près fait le tour de mes questions.
Super, merci beaucoup Laetitia.
Merci à vous quatre, merci beaucoup.
Et à ce soir pour...
Profitez bien du festival.
Ouais, merci, toi aussi.
Merci.
Et maintenant on enchaîne avec un interview que nous avons fait tout à l'heure avec Brieux de Quinquis, qui est venu avant ses balances, qui se passe en ce moment même, donc elle ne pouvait pas venir maintenant, et donc elle est venue tout à l'heure nous expliquer les sensations qu'elle avait pour jouer chez elle ici à Ouessant. Quinquis.
Radio U, le plaisir absolu.
Alors nous sommes avec Brieux, et on accueille Émilie Quinquis dans l'auberge de jeunesse de Lampol, à Ouessant.
Bonjour.
Bonjour. Merci de vous être déplacé avant vos balances. Peut-être je peux te tutoyer.
Oui, ce sera mieux. Tutoyer.
Et tu joues ce soir à domicile.
C'est ça.
En mai dernier, tu as sorti ton dernier album, Éor, Encre en breton, donc l'encre du bateau. Et donc, qu'est-ce que ça fait pour toi là, de jouer à domicile à Ouessant, chez toi, à l'Ilophone?
C'est atroce. C'est le pire truc, jouer devant tous les copains, c'est atroce. Ça fait une semaine que tous les jours, tout le monde me dit « Alors, t'es prête ?» Et non, c'est déjà, j'ai tendance à avoir le trac, mais là, aujourd'hui, c'est difficile. J'ai super hâte en même temps, mais j'ai hâte que ce soit fini aussi.
J'imagine. Surtout que c'est ici aussi que tu as enregistré, en fait, j'imagine, cet album.
Oui, mais je l'ai enregistré en 2000, au printemps 2024, quoi. Il est sorti en mai là, de cette année. Et donc oui, c'est un album sur Ouessant, c'est un album dont le point de départ est un conte d'Anatole Lebras sur 12 sirènes qui entouraient Ouessant et l'une d'entre elles qui tombe amoureuse d'un d'un Wessantin et qui décide de renoncer à sa vie de sirène pour aller avec lui, et donc qui le fait roi de la pêche, et donc ses sœurs la renient, et en fait elle rattrape ce Wessantin dans la mer, et donc la légende raconte que chaque descendant de cette sirène a eu la même malédiction. Et donc voilà, c'est aussi une légende d'Anatole Le Braz qui s'appelle le sang de la sirène. Et l'album, il part de ça, quoi, de ce conte-là, tout l'album. Voilà.
D'accord. Et dans la construction de cet album, du coup, tu as utilisé, on entend régulièrement des sons, tous les apports, etc. C'est des enregistrements, des choses qui sont d'ici.
Quand j'enregistrais, à des moments, j'étais obligée de couper les prises parce qu'il y avait trop de vent, trop de pluie. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bah, tant pis, en fait, je vais juste les enregistrer et puis les intégrer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de bruits de mer, de vent, de feuilles. Voilà. Et c'est que du son douessant.
Et même sur une des chansons, j'avais l'impression d'entendre des cris d'oiseaux. Alors, je ne sais pas si c'était...
Si, absolument. Ouais, pareil. Pareil, c'était des petits oiseaux d'ici.
Donc là, t'es allé avec ton enregistreur les enregistrer?
Non, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai juste ouvert la fenêtre et je me suis dit, ah voilà, je garde ça.
Ok. Et ouais, donc tu t'es beaucoup inspiré de la mer aussi, j'ai l'impression. C'est un album qui est très ondulant, des vagues... Ça se sent quand on l'écoute, non?
Ouais, je crois que justement là, toute la figure de la sirène qui est du coup développée sur l'album et donc la question du rapport amoureux, des sirènes qui veulent devenir des marins qui veulent devenir des sirènes qui s'aiment entre elles, des marins qui s'aiment entre eux. En fait, tout ça, c'est vraiment en fait une espèce de déroulé qui, je pense, qui se ressent comme un peu des vagues sur toute la durée de l'album. Ouais.
Et est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur Anatole Le Braz, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est quand même un récolteur de paroles breton assez connu et un poète aussi.
Oui, mais ça date. Hein, c'était là, en plus, le sang de la sirène, c'est tout début du XXe siècle. Et Anatole Le Braz, ça fait partie des gens qui nous ont permis d'accéder, enfin d'avoir une trace en fait de tout ce qui sera, toutes les légendes qui se racontaient, et notamment la légende de la mort. Moi, ça a été pour l'album précédent en fait, Same. Là, c'était vraiment, il y avait quand même une forte tonalité autour de la légende de la mort, la figure de l'Ankou. Et ça, c'était aussi, enfin, ça forcément, ça a nourri mes recherches. Et ça, c'est que c'est quelqu'un, enfin, qu'il faut lire quand on veut un peu comprendre la culture bretonne et l'état d'esprit, quoi.
Mais lui, il n'était pas originaire de Wesson du tout, Anatole Le Braz.
Non, je sais pas du tout d'où il était originaire exactement, mais
je crois que c'est des Côtes d'Armor. Je suis pas sûr, mais je crois.
T'es Côtes d'Armoricain, toi, non?
Non, même pas.
Donc on voit effectivement tout ton univers musical et donc là notamment sur ce dernier album est basé sur Wessan, etc. Mais quelque chose qui marque vraiment ton identité culturelle, c'est aussi la langue bretonne. Qu'est-ce que ça dit de toi sur toi en tant qu'artiste ou en tant que femme, ce rapport à la langue bretonne?
Alors, la langue bretonne, c'est une langue du coup que j'ai réappris, mais qui était la langue de ma maman, la langue maternelle de ma maman, et puis là, du coup celle que ma grand-mère parlait. Ça a été un moment où j'ai compris pourquoi. Enfin, j'ai compris mon caractère à travers, en fait. En fait, je crois vraiment que les langues, la musicalité d'une langue, la façon dont elle est composée, elle forme en fait des esprits. Et c'est pour ça que c'est si important de les protéger, en fait, parce que quand j'ai appris le breton, je me suis rendu compte de toute la toute, euh, par exemple, le fait que les choses, on ne les possède pas, mais qu'elles sont, elles sont avec nous. En breton, on dit « les clés sont avec moi ». Et ça, c'est un truc, un bretonisme que moi, j'avais dans mon langage. Je ne savais même pas que c'était un bretonisme. Et quand on a essayé de m'expliquer que ce n'était pas français, je ne comprenais même pas de quoi il me parlait, en fait. Et là, je me suis rendu compte que ce côté transitoire des choses et le fait de n'être que de passage et de considérer en fait qu'on est vraiment des vaisseaux sur la planète, quoi. Et que voilà, une fois que nous on s'en va, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais et que tout n'est que de passage avec nous et nous ne sommes que de passage ici. Je trouve que ça raconte pas mal en fait la culture bretonne et aussi cette envie toujours des Bretons d'aller voyager, d'aller voir ailleurs. Donc quand j'ai appris le breton, ça m'a recentré en fait, vraiment. Et chanter en breton, c'était aussi parce que en fait la musicalité, la langue se prêtait beaucoup plus à ce que je voulais faire que le français. Et avant, je chantais en anglais, mais il y avait quelque chose qui me manquait de l'ordre de l'intimité avec la langue. Et cette langue-là, alors que c'était pas ma langue maternelle, en fait, c'était quand même une langue que j'avais toujours entendue depuis petite et que je pense me permettait de dire autre chose, quoi. Qu'il y avait une douceur avec ça qui n'était pas celle que je pouvais avec l'anglais.
Et donc moi, je parle breton aussi, je comprends un peu. Et il y a une chanson d'Air. Et à un moment, je ne sais plus comment tu dis en breton, mais en gros, tu dis en français « Laissez-moi tranquille ». Et je me demandais à qui ça s'adresse, cette chanson, le « Laissez-moi tranquille
». Alors ça, c'est vraiment le truc, c'est très haut-essentin, ça. C'est quand quelqu'un ne va pas bien. On lui dit allez viens sors viens on va te... enfin, et puis comme un peu partout en fait et en fait il y a vraiment ce truc de se dire allez viens danser avec nous et ça va passer et en fait il y a toujours ce truc de dire non j'irai pas et puis ça te démange et t'y vas quand même et d'air c'est vraiment ça c'est tu veux pas y aller mais t'y vas quand même.
Et pourquoi ce nom Eor pour cet album?
Eor, j'ai commencé à travailler dessus quand au moment où j'allais partir pour une tournée à la voile pendant 3 mois jusqu'aux îles Féroé. Et quand j'étais sur le voilier, il y a vraiment eu un moment où j'avais vraiment perdu tous mes repères. En fait, j'avais plus... Même mon équilibre, en fait, même l'équilibre sur un bateau, tout bêtement, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais et avec lequel on se réajuste tout le temps. Et j'avais vraiment cette sensation de toujours me réajuster dans chaque endroit que j'arrivais. Je perdais un peu le fil. Je savais plus en fait où j'étais, ce que je voulais, qui j'étais. À ce moment-là, je me suis rendu compte de la force en fait de l'ancrage et de la nécessité en fait d'être bien ancré avant de partir quoi et or du coup ça parlait de mon ancrage et de mon ancrage ici à Ouessant parce que finalement je me rendais compte que ça me manquait énormément d'être loin et alors que en étant sur l'eau on était quand même assez proche de l'île là ça a été un moment important donc voilà j'avais besoin de raconter cette ancre.
Est-ce que ce voyage a amené à de la création? Est-ce que ça t'a amené des idées nouvelles ou...
En perdant justement tout repère, je me suis vraiment... en fait, il y a vraiment des choses qui se sont débloquées pour moi sur mes envies de musique et tout ça, ce que j'avais vraiment envie de développer. Et ce que j'avais envie de raconter, puis la question de la sirène, c'est vraiment né aussi de navigation de nuit, où des fois je faisais mon quart de nuit, donc j'étais toute seule à la barre, à bord d'un voilier, au milieu de la Manche par exemple, et en fait tu ressens vraiment ce truc où tu comprends pourquoi les marins ils ont eu à des moments des espèces d'hallucinations, des espèces de visions de sirènes, des chants de sirènes qui leur arrivaient dans les oreilles, c'est qu'il y a une telle fatigue des fois qui s'installe, et c'est tellement magique en fait que je pense que ouais, la question de la thématique de l'album est sortie de ça et après aussi la façon dont je les ai traités en fait ça venait de des réflexions que j'ai pu avoir sur la tournée à la voile.
C'est marrant parce que moi quand j'ai j'ai écouté l'album et après j'ai repensé au titre. Ça m'a fait penser aussi quand même que on sent que ça bouge, que enfin les chansons ça bouge tout le temps, le rythme il change tout le temps. Et ça m'a fait penser aussi que l'encre, même si elle a beau être ancrée, en fait l'encre elle peut chasser, elle peut déraper. Et l'encre ça permet aussi de la lever pour aller ailleurs, pour continuer à voyager. Donc à la fois ancrée, mais t'es tout comme tout le temps en mouvement. Et du coup je trouvais que ça marchait bien avec ton album, quoi.
Ouais, merci. Oui.
Et donc il y a beaucoup de chansons en breton, mais il y en a une en anglais et il y en a une autre avec un chanteur sud-africain, il me semble.
Oui, il y en a une avec de l'anglais dedans, mais il y a du breton aussi. Il y en a une du coup avec du zoulou et il y en a une avec du gallois. Et donc le chanteur sud-africain, c'est Desire Maria.
Et comment tu l'as rencontré alors ?
Je l'ai jamais rencontré. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait je l'ai vu en concert à Berlin et ça m'avait époustouflé. C'était juste après le Covid et je me suis dit faut que je fasse une collaboration avec ce type. Et du coup quand j'ai composé les morceaux, à chaque fois je réfléchissais à sa voix et je me disais non, pas celui-là. Et il y a un moment, en fait il y a un des morceaux où je me suis dit ah ouais, là sur celui-là, c'est sur celui-là qu'il faut qu'il chante. Et donc j'ai tenté le coup. On était sur la même maison de disques qui est Mute à Londres. Et via la maison de disques, je leur ai dit voilà, j'aimerais beaucoup qu'il fasse un featuring. Et puis il a reçu le morceau et il m'a appelé carrément. Il m'a dit ouais, carrément, avec plaisir. Et après, j'ai laissé libre. Je lui ai dit ben, tu fais ce que tu veux en fait. Mais j'avais les jetons parce que j'avais tellement projeté, j'avais tellement envie d'un truc spécifique. Je me disais bon, j'espère que je ne me suis pas tout à fait plantée. Et en fait, quand il m'a renvoyé le morceau, c'était genre pile dans le mille, quoi. C'était exactement ce que je voulais, avec sa sensualité, avec sa voix de fou. Et puis avec un truc hyper aussi dramatique, parce que bah lui, il est queer en Afrique du Sud. Et c'est vraiment, et noir, queer en Afrique du Sud, ben franchement, c'est pas facile, quoi. Il y a plein de trucs, d'obstacles auxquels qu'il a dû surmonter pour pouvoir exister. Et ça se ressent très fort, en fait, dans ce qu'il fait. C'est hyper beau, quoi. Voilà. Il est très court. On sent son courage dans sa voix.
Impressionnant. Et donc la galloise, donc je vais pas me risquer à prononcer son prénom, je sais pas comment elle s'appelle,
Kerry Safana. Ouais.
Comment tu l'as rencontrée, elle?
Kerry Safana, en fait, on s'est rencontrés, mais quand on s'est rencontrés, je lui avais déjà demandé de faire la collab sur Blazan Olen. Et en fait, Kerry Safana, on s'est rencontrés sur un festival à Aradeg. Enfin, un festival qui s'appelle Aradeg à Bethesda.
Je ne sais pas où c'est, Bethesda.
C'est au Pays de Galles. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est retrouvés exactement dans une radio comme ça, qui faisait une émission pendant le festival, exactement pareil. Et ils avaient invité Kerry Safana. Et le gars qui devait l'interviewer, en fait, venait de m'interviewer, et puis on a bien rigolé. Et en dernière minute, il reçoit un coup de fil, il y avait une urgence familiale, il fallait absolument qu'il parte, sauf que c'était du direct. Et donc il m'a regardé, il m'a dit « Tu peux faire l'interview ?» Et là j'étais là « Ok, d'accord, ok ». Et donc il est parti, il est allé sur son urgence familiale et Kerry et moi, on s'est rencontrés comme ça. Et j'ai interviewé Kerry, on ne se connaissait pas, j'avais jamais fait de radio de ma vie. Donc voilà, mais et du coup c'était chouette comme rencontre. Bon, elle est venue là, il n'y a pas longtemps et tout ça, c'est une chouette rencontre aussi.
Et donc, tu as appris à parler gallois un petit peu
Et j'ai appris, en fait, le breton et le gallois, c'est tellement cousin qu'il suffit de transposer deux, trois lettres. Et en fait, rapidement, on peut se comprendre, en fait. En tout cas, la lecture, déjà, elle est facile. Et, ouais, on peut se comprendre.
Super. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et bon concert.
Et ben, merci.
Bon courage.
Ouais, à ce soir.
À ce soir.
À ce soir. Radio.
Alors, nous sommes toujours sur le plateau de Radio U et Mutine à Lillophone à Ouessant. Et on accueille Pierre et Mika du groupe Gwendoline. Bonjour.
Hello.
Salut.
Merci à vous d'être venus jusqu'à nous, ici à l'auberge de jeunesse, un peu au-dessus de l'Empole. Comment vous allez? Comment se passe cette arrivée à Ouessant après ce petit tour en bateau?
Ah, c'était bien, il y avait un peu de vagues, il y avait des gens déjà sous sur le bateau en train de chanter. Ça nous a mis dans le bain, c'était cool. On est arrivé, on a mangé, on s'est baladé, impeccable.
Super.
On se trouve donc à Ouessant dans le cadre du festival de l'Ilophone. Je me demandais d'ailleurs comment vous trouvez Ouessant. Est-ce que justement ça colle un peu à votre esthétique schlagwave, je m'en foutiste? Est-ce qu'on retrouve ça à Ouessant?
C'est ultra sauvage ici. Y a pas... enfin, on est loin de tout le côté béton, des primes avec plein de gens enfin, qu'on peut raconter à Brest. On en est un peu loin quand même, je pense. Mais il y a un côté brut, peut-être, qui colle. La roche, voilà. C'est pas trop.
Et est-ce que vous avez peut-être eu le temps déjà de repérer un petit peu les bars ou les PMU que vous aimez bien? Enfin, est-ce que vous en avez repéré un petit peu dans le bourg de Ouessant? Vous n'avez pas encore eu le temps, peut-être.
J'étais déjà venu pour une autre occasion qui était plutôt touristique, on va dire. J'étais allé dans un bar, mais je ne sais plus comment il s'appelle.
Donc le but, c'est de le retrouver.
Voilà.
C'est ça l'objectif du week-end. Ouais, je me demandais au niveau de la scène, c'est un peu un rapport avec le PMU, c'est le côté karaoké que vous développez avec le mapping à travers vos concerts. C'est quoi un petit peu le but? Pourquoi vous faites ce côté karaoké? Qu'est-ce que ça apporte en plus à vos shows?
De base, c'était parce que on n'aime pas forcément que les gens ils nous regardent. Et du coup, ça nous rassurait quelque part qu'il y a un gros truc à regarder. Et en plus, le côté karaoké, on trouvait ça intéressant parce qu'on aime bien faire des karaokés aussi dans la vie, quoi.
Ouais, l'idée qu'il y ait une grosse scène et que ça puisse rappeler un petit endroit comme un PMU avec un karaoké et que les gens puissent participer.
Et les vidéos que vous incorporez aussi dans ce mapping, ça sert aussi à amener une certaine ambiance?
Ouais, il y a un peu deux styles de trucs. Soit c'est figuratif, soit ça va être plutôt des textures qui servent comme de la lumière finalement, où on va être en ombre dessus. Mais oui, c'est une seule personne qui est un bon copain à nous qui a fait toutes les vidéos. Et l'idée, c'était de capter un peu l'ambiance des paroles aussi avec les vidéos.
J'ai pu voir que vous aviez sorti en juin, donc tout récemment, un mini-album qui s'intitule Patch et Care, je ne sais pas si je le prononce bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, comment ça s'est fait?
Ouais, c'est venu via Astropolis et une structure, la structure de Care Vallon, qui est un foyer de vie pour personnes en situation de handicap, avec l'envie commune de développer un projet autour de la musique et de faire en sorte que les résidents de ce foyer de vie puissent avoir accès à la musique et qu'on crée quelque chose ensemble. Voilà. Et suite à ça, il y a un deuxième foyer de vie qui était intéressé, qui s'est greffé. Et du coup, ça a duré pas mal de temps parce que ça s'est enregistré pendant la période Covid et à chaque fois qu'il y avait une personne qui avait le Covid dans un des deux foyers, on était obligé de tout annuler. Donc je sais pas combien de temps ça a pris, mais c'était assez long.
Un an et demi, je crois.
Et c'était la première fois que vous faisiez ça?
Ouais. Moi, j'avais déjà fait une ou deux interventions avec des collégiens ou des gens à l'université, mais pas avec des gens en situation de handicap.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez retenu du coup de ce projet?
C'était super. Ce qui était marrant, c'est qu'on a tâtonné à fond. On est parti avec des idées reçues, pas sur eux, mais sur nous, la manière dont on allait fonctionner, comment on allait faire les séances, etc. Et en fait, c'était tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc ça a pris du temps dans la manière d'avancer avec eux, de à quel moment nous on intervient et comment on fait en sorte qu'en même temps, ce soit le plus possible eux qui y participent et que ça vienne d'eux. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était finalement, que c'était pas les personnes avec le plus d'aptitudes et de facultés qui allaient le plus apporter. Loin de là, en fait, tout le monde a pu prendre part. Je sais pas, il y avait des belles surprises, non? C'était vraiment bien.
Et c'est quoi le rendu un petit peu que vous avez? Ça ressemble un petit peu à ce que vous faites avec Gwendoline ou alors c'est quelque chose de totalement différent?
Ça ressemble un peu dans le sens où on a produit quand même la finalité. En fait, on a enregistré énormément de boucles et de sources qui faisaient, quoi. Et du coup, du fait qu'on ait produit le disque, et forcément, ça sonne un peu comme nous, on sonne, comme on a l'habitude de faire.
En En fait, c'est ce qui était compliqué. On voulait pas. Ils étaient pas musiciens de base. Et du coup, il y avait l'idée qu'on voulait quand même que ça parte d'eux et que ce soit pas à nous de le faire. Donc en fait, il y a eu des moments où, on enregistrait des gens pendant 10-15 minutes et on gardait un fraction de seconde du truc qu'on allait boucler, etc. Enfin, fallait user de pas mal de stratagèmes.
Mais du coup, vous les enregistriez jouer sur quel instrument ?
Des percussions, des claviers MIDI, du coup, grâce auxquels ils avaient accès à plusieurs sons, donc ils pouvaient choisir leurs sons. Des voix, pour le coup, ça marchait bien. Après, il y a eu des claps de main, plein de choses.
Écriture aussi.
Et en fait, c'est comme ça que vous travaillez, vous aussi ?
J'ai tout à fait.
Parce que quand, là, on est, parce que, il y a de la batterie là, dans vos morceaux, mais vous n'avez pas de batterie sur scène. Donc, est-ce que vous, j'imagine, vous jouez de la batterie, non ?
Non, ouais. Pas de la vraie batterie, à proprement parler.
On a un clavier avec un kick, une snare, tout ça, et on tape sur un clavier, tout, voilà.
Ok.
C'est pas une vraie batterie, quoi.
Ok.
Vous revenez d'une tournée au Brésil, ça. Donc vous êtes parti en juillet, en août, pour faire 6 dates là-bas. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous retenez de cette tournée ?
La peur de l'avion.
C'était en août, ouais, surtout. Enfin, on n'a pas pu dire, ouais, c'était 6 dates. Mais c'était, on est parti en se disant, on y va. Et en fait, sur place, c'était pas si bien organisé que ça. On a fait,
un peu
on
à
a fait
des
choix. On a fait les deux premières dates, il y avait 15-20 personnes, je pense. Voilà. Heureusement, à côté de ça, il y avait le côté voyage qui était cool. C'était aussi l'idée de se dire, bon, on a 2 semaines, on peut profiter à Rio, à Belém, machin. Et puis là, on compte quand même avec des gens, mais mitigé dans l'ensemble.
Et comment ça s'est organisé ? Comment vous avez eu cette opportunité d'aller jouer au Brésil ?
En fait, il y a un festival qui s'appelle Serasgum à Belém, donc au nord du Brésil, qui nous avait vus au Transmusical il y a 3 ans, je crois, 4 ans, et qui avait sollicité Flo, qui s'occupait un peu de nous, enfin qui s'occupe de nous, pour venir. Et sauf qu'à chaque fois, on disait non parce que moi, j'avais peur de l'avion et qu'en plus, on n'était pas dispo, vu qu'on avait des dates ici. Et sauf que là, on n'avait rien. Du coup, j'ai dit OK. Enfin, on a dit OK. Et moi, j'ai dit que j'étais OK de prendre l'avion et voilà.
Et on attendait aussi qu'il y ait un tourneur, en gros, enfin pour pas y aller juste pour une date, bien évidemment, qu'il y ait un tourneur qui soit chaud à monter un tour autour. Sauf que c'est là où c'était foutraque, parce que c'était un tourneur qui a trouvé des trucs, mais
pas
qui a pas fait trop de service après-vente. On dormait vraiment dans les crack zones. Voilà. On est arrivé à Sao Paulo en pleine nuit, dans un quartier connu qui s'appelle, qui est surnommé Cracolandia, où t'avais des gens à poil dans la rue avec des couettes sur eux, des interventions de flics de partout.
Voilà. Le folklore local, quoi.
C'était bizarre l'arrivée, mais après le reste était chouette.
Et c'est quoi un petit peu la date qui vous a le plus marqué sur cette tournée ?
Rio, je pense.
Ouais, Rio et Brasilia. Rio, il y avait du monde, on jouait au Kingston Club, un énorme truc de reggae, en open air, donc rien à voir avec ce qu'on fait de base. Mais il y avait plein de styles musicaux sur toute la soirée, et c'était vraiment le Brésil dans son effervescence, avec des gens méga métissage, tout style de gens, etc., qui étaient prêts à écouter n'importe quoi, danser surtout. Enfin, vraiment une super ambiance.
Et est-ce que justement vous êtes inspiré un peu de la musique brésilienne et de la diversité musicale qu'on peut trouver là-bas ? Est-ce que ça vous a donné des idées un peu pour d'autres futurs morceaux ?
Peut-être. Mais ça fait 2 jours qu'on est rentré, du coup.
Ah ouais ?
Enfin, 3 jours, je sais plus.
3, ouais. L'idée de la samba, c'est chouette. En fait, on n'a pas eu de bol, on a vu vraiment de la samba que le dernier jour. Avec ce truc où tu as entre 12 et 15 personnes qui sont en cercle, qui jouent, qui viennent chacun à leur tour faire des interventions de percus, des chants, et tout le monde qui danse autour. Ça, c'était assez incroyable. Nous, il y a des percussions dans nos morceaux, mais qui ne sont pas à jouer. On se disait, ça serait cool. Sauf qu'il faut plus de sous pour pouvoir avoir un musicien de plus, donc ça ne sera pas demain.
Et est-ce qu'au Brésil, il y a une scène un peu post-punk, cold wave, ou alors c'est complètement différent ?
Ouais. Il y a, d'ailleurs, le dernier soir, l'endroit du dernier concert, en fait, le lendemain de quand on jouait, il y avait un groupe qui faisait de la new wave, un peu à la Rendez-vous, tout ça. C'était hyper bien. J'ai oublié le nom parce que je parle pas du tout portugais, mais je peux le retrouver pour après.
Pour après, ça marche, ouais.
Bah, c'était la déception, en fait, justement, c'est qu'on s'est retrouvé sur un tour où on jouait pas forcément avec des groupes du même style de musique que nous. Et ouais, le lendemain du concert qu'on faisait, bah, là, il y avait ce groupe de new wave où c'était blindé, un groupe brésilien. On se disait, ça aurait été cool que le projet soit plutôt réfléchi comme ça, que nous, on venait faire une tournée avec ce groupe-là et qu'ils venaient après.
Jovens Atheus.
Eh ben, très bien, on note, on ira écouter. Je me demandais, au niveau du public, ça ressemble à quoi un petit peu au Brésil ? Est-ce que c'est un peu les mêmes ambiances que ce qu'on peut retrouver en Europe ? Ou alors c'est totalement différent ? Et peut-être même par rapport à votre musique, est-ce que c'est un public qui apprécie ce genre de musique ?
Bah, c'est pas évident, parce que je pense qu'on a un peu effleuré le Brésil, finalement, on n'a pas eu le temps. Et que nous, on s'est retrouvés sur des plateaux où il y avait vraiment tout style de musique. Mais je pense pour le coup qu'il y a vraiment enfin, par exemple à Sao Paulo, t'as un méga club de Dark Wave, Cold Wave. Voilà. Je sais pas, nous les gens qu'il y avait, je sais pas trop. C'est dur à définir.
J'ai un ami brésilien qui dit qu'au Brésil, on retrouve la terre entière. Ouais. C'est tellement énorme qu'il y a tellement une diversité de personnes que entre tout le Brésil, rien que même dans Sao Paulo, apparemment, c'est complètement fou. Donc j'y ai pas mis les pieds, mais.
Et puis leur histoire, c'est. Un mélange de latino, de blancs colons qui sont arrivés là, d'esclaves africains. En fait, il y a une mixité du coup, après coup, aujourd'hui. Oh, c'est fou, ouais.
Est-ce qu'on pourrait peut-être voir à l'avenir des collaborations entre Gwendoline et justement des groupes brésiliens, je sais pas, pour des morceaux, ou même peut-être une soirée où vous les inviteriez à partager la scène avec vous ?
Bah oui, oui. Si... À vrai dire, on n'en a pas rencontré, quoi. Mais si ça se fait, oui. Pourquoi pas ?
Et peut-être une autre question aussi. Je me posais une question éventuelle. Comme vous avez un peu voyagé, que ce soit en Europe ou même au Brésil, est-ce que ça serait possible de voir, par exemple, Gwendoline chanter dans une autre langue que le français ? Ou alors c'est
non.
Quelque chose d'impossible ?
Enfin, pour moi, non. À la limite, en breton, si on apprenait le breton. Sinon...
Bah déjà qu'en anglais, on ne sait pas, alors...
C'est plus simple en français.
Ouais.
Vous pourriez inventer votre langue ?
Ouais, peut-être.
Comme Elmout.
Après, on aime bien utiliser un peu de l'argot, des insultes, des expressions. Et ça, dans une autre langue, ça serait complexe. Il faut vraiment avoir un bon level dans une autre langue.
Et peut-être une dernière question à propos du Brésil. Est-ce que vous avez pu retrouver un petit peu un côté schlag aussi, comme vous l'aimez bien ? Est-ce qu'il y a de ça aussi au Brésil ?
Ouais, d'une certaine manière, je trouve. Il y a un truc de tranquille, c'est pas grave, ça ira, tout se passera bien. On laisse couler. Ouais, un truc comme ça.
Ok, super. Eh bien, on va terminer là-dessus. Alors, je pense qu'il y aura un peu moins de diversité dans le public à Ouessant.
C'est pas dit.
Ça va vous. Ou il y aura peut-être des énergumènes aussi, quand même, je pense.
Ah, je pense, surtout qu'on joue à 1040.
En voyant l'ambiance dans le bateau, je me dis que ce soir à minuit, ouais, les gens vont être très frais et qu'ils vont bien déhancher sur Gwendoline. Et merci beaucoup. Et on va enchaîner maintenant avec un petit morceau musical de votre composition. Merci et à tout à l'heure. Alors, à plus tard.
À tout à l'heure.
Merci.
Bon courage. Tout va crever dans 10 ans. J'ai plus la foi de faire des efforts.
quand je me gourre de boissons pour m'hydrater. Je sens la mort à 10 km à la ronde. C'est plus la peine de me faire faire des sourires. C'est plus la peine de boire de l'eau pour s'hydrater. C'est plus la peine d'être derrière à courir. De toute façon, on va bientôt tous crever. Tous les soirs.
C'était Rock 2000 de Gwendoline sur leur nouvel album. Et donc, il y a Miossec qui vient d'arriver. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu avec nous sur le plateau conjoint de Radio U et Mutine à Lillophone. Et donc, je laisse la parole à Nico et Brieux pour les questions.
Et oui, merci Quentin. Miossec, qu'on ne te présente plus, hein. Tu viens ici en tant qu'artiste et parrain du festival de Lillophone. C'est un plaisir de te revoir ici sur le festival. Après donc avoir triomphé de ton cancer des cordes vocales, tu reprends la scène à l'âge de 60 ans avec une tournée pour ton album Simplifié, sorti en 2023. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette tournée?
D'une certaine façon, elle est un peu inespérée, donc c'est un plaisir, quoi. Et puis, ça a été long à trouver les personnes à qui jouer, curieusement, mais du coup, j'ai eu du temps, vu que j'avais les bonnes raisons. Et du coup, je jouais avec Stéphane Fromentin, Nicolas Meheux, on joue en trio, et puis c'est vraiment le pied, quoi. Enfin, de arriver à mon âge, de continuer à prendre autant de plaisir avec ce trio, quoi, parce qu'on fait pas deux fois les mêmes concerts, tout simplement.
Et quel Miossec le public est-il amené à voir pendant cette tournée?
Oh, quelque chose de décevant, quoi, autrement c'est pas marrant.
Et ça fait quel sentiment de pouvoir enfin défendre son album sur scène après une interruption comme celle-ci?
Ah ouais, c'est du plaisir, parce que c'est un album en plus qui n'a pas été défendu. Enfin, c'est un album qui est un peu coulé, quoi, en fait. Donc, les gens ne connaissent pas les chansons, et c'est pareil, c'est une histoire d'âge. À mon âge, c'est vraiment chouette de jouer des choses que les gens ne connaissent pas, quoi, pas ressasser toujours les mêmes vieux morceaux.
Bah nous, on a pris le temps un peu d'écouter cet album et ces morceaux.
on le sent vraiment très, très intimiste, très intime comme, comme album. Il y a une prise de recul un peu sur la vie avec des morceaux comme Mes disparus, Une histoire de soleil. Qu'est-ce qui a amené à ce choix de rédaction de chansons?
Ah, c'était avant les pépins de santé, donc ça a pas influé. Mais bah, en fait, c'est un album que j'ai voulu vraiment faire tout seul. Pas tout seul évidemment, mais si tout seul à la maison. Enfin, tout était enregistré à Logmaria Plouzané, quoi, à la maison, avec un ingénieur du son qui s'appelle Paul Legal, qui joue dans Le Mammouth. Et bah, l'idée, c'était de revenir un peu... à qu'est-ce qui m'avait poussé à faire de la musique, parce que je commençais à 30 ans, quoi, en fait. Donc, l'idée, c'était de revenir avant boire, quand j'étais tout seul avec ma basse, mes guitares, ma boîte à rythme et tout ça, et de tout faire, quoi, en fait. Tout seul comme un grand, de se retrouver, oui, comme un débutant, quoi, parce que quand t'es tout seul, t'es un peu, ouais, t'es...
Justement, les textes sont vraiment mis en avant par ce choix musical d'avoir une bande-son... plus épurée, mais aussi plus percutante par la boîte à rythme. C'était un choix.
Ben c'est la boîte à rythme qui a fait ce choix-là, quoi, en fait. Parce que je suis tombé sur le bon coin. J'adore les boîtes à rythme, mais c'est sur une LK Drummer One de 1967, et qui est une sorte de gros engin, enfin, qui a un ampli intégré, et qui a un son vraiment incroyable. Donc, c'est. En fait, la contrainte, c'était la boîte à rythme. Tous les rythmes sortent de la boîte à rythme, et c'est elle qui faisait les chansons, c'est moi qui suivais, quoi, en fait. Et puis j'ai revendu cette boîte à rimes parce que je suis pas un collectionneur, et elle est partie chez Connor Youngblood, un jeune rappeur texan qui fait un super boulot, et du coup, grâce à cette boîte à rimes, je suis en connexion avec lui, on va sans doute travailler ensemble. Enfin, c'est les drôles d'histoire de la musique, quoi.
Alors, dans cette tournée, tu accordes une place toute particulière aux dates dans le Finistère, et plus particulièrement aussi aux dates qu'il y a à Brest, puisqu'il y a 3 dates à venir dans la cité du Ponant. Comment elles sont ces dates? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi?
Pour arriver à ça, il a fallu que je change de tourneur, en fait, puisque quand tu es avec des tourneurs français, ils ne comprennent pas vraiment ta volonté de jouer en Bretagne, ailleurs qu'à Rennes, Brest, Lorient, Vannes, etc. Mais je voulais vraiment la bourrer, puis surtout, ouais, le Finistère, quoi, en fait. Parce que c'est jouer pour les gens qui vivent autour de moi, quoi, tout simplement. Et c'est encore une histoire d'âge, quoi.
Et pour défendre en plus cet album un peu plus intimiste, est-ce que ça fait pas un peu plus de sens, justement, de jouer au plus proche de chez soi?
Ouais, mais c'est un album qui paraît intimiste comme ça, mais... rebalancer sur une grosse sono et avec les sons qu'il a et tout ça, non, c'est plutôt, non, on n'est pas dans la soirée chandelle.
Et lors de ces concerts, tu partages de temps en temps l'affiche avec des artistes locaux, comme par exemple Quinquis ou alors Brieg Guerveno, par exemple. C'est quelque chose pour toi d'essentiel de mettre un peu en lumière comme ça aussi les artistes locaux?
C'est lié à une histoire familiale où mes parents ont disparu juste avant mes pépins de santé, comme par hasard. Et quand ma mère est partie, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était du Folgoët. Enfin, toute la famille maternelle était du côté du Folgoët, ils parlaient breton. Et comme mon grand-père est mort à la guerre en Méditerranée en 43, elle était pupille de la nation. Et à 18 ans, elle avait le droit à un travail à l'arsenal de Brest, quoi, en fait. Donc elle est arrivée à Brest avec son breton qu'elle a complètement oublié. Puis surtout qu'elle n'a pas transmis à ses enfants, quoi, en fait. Il y a Rosane Milin qui parle de suicide linguistique, qu'on retrouve dans d'autres... C'est les anthropologues américains qui travaillent au Mexique qui ont trouvé ce truc-là. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas le breton à ses enfants pour qu'ils réussissent dans la vie, tout simplement. Enfin, donc voilà, c'était. Et donc, du coup, de travailler avec Brieg Guerveno et Quinquis, c'est vraiment un plaisir de. Pardon, je parle trop longtemps. Ouais, non, du coup, c'est ce truc du breton. J'ai presque envie de me mettre au breton, quoi.
D'ailleurs, le week-end dernier, on a pu te voir à Carré, dans le cadre de Brise Alive. C'est dans cette démarche également un peu de défense de la langue bretonne.
Ouais, puis tout ce qui se passe, enfin sur ce qu'ils appellent maintenant ici la radio là et tout ça, enfin ils ont supprimé toutes les émissions en breton le matin. Enfin, je veux dire, Diwan est en difficulté dans plein d'endroits. Le breton n'est pas pour l'apprendre dans les écoles publiques, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc c'est vraiment alors qu'il y a 100 000 locuteurs bretons actuellement qui sont jeunes, quoi, en fait. C'est vraiment des militants, la jeunesse qui parle breton qui est arrivée. Ça, c'est plutôt réjouissant, quoi. Donc, ça serait dommage que l'État français empêche.
Et Miossec, en solo, peut-être pour conclure, comme tu l'avais initialement prévu, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra voir un jour ou alors c'est complètement sorti de ta tête ?
Ouais, je l'ai fait quelques fois. C'est des expériences tellement... Comment dire ça ? Enfin, je suis quelqu'un de timide de nature, donc pour moi, ce genre de truc, c'est juste une sorte de... Non, je sais pas, ouais, sans doute, mais faire de la musique avec des gens qui deviennent des amis, enfin pas toujours évidemment, mais ce qui est en train de se faire là, c'est quelque chose de collectif, quoi, et c'est il y a quelque chose d'une tristesse infinie le soir du concert quand on est tout seul, quand on rentre à l'hôtel, c'est pas c'est pas pareil.
D'où le lien avec ce rappeur texan qu'on verra peut-être un jour à Brest alors.
Ouais, parce qu'il vient jouer en Europe de temps en temps, donc ça serait chouette.
Excellent. Et bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à Nico Brieux et à Roman à la technique.
Oui.
Et ouais, on se retrouve tout à l'heure pour le concert.
Oui. 21h.
Oui.
Merci à toi, Quentin.
Pendant la pluie.
Et demain, sur Radio U et Mutine, le nouveau plateau
même heure,
de demain.
Même heure. Fréquence.
À tout bientôt.
Je m'appelle Charles et je vous reçois depuis tellement d'années que je sais de quoi je parle. Quand on me parle d'humanité, je suis plein de tous les corps, je suis plein de toutes les âmes qui sont venues un jour chez moi, qui ont passé un soir l'entrée. Je m'appelle Charles. Je tiens un hôtel, bar, restaurant, un grand établissement avec tout au fond dedans, plein de concerts bruyants. Je suis le cœur de la ville du Ponant, je suis le patron du Vauban. Je tiens sur mes épaules un monument. Je vous connais comme si je vous avais fait. Vous êtes tous parfaitement les mêmes. Vous vous croyez tellement unique. Vous vous donnez tant de peine. Vous jouez tous sur le même rythme. Vous jouez tous sur le même thème. Vous voulez tous que l'on vous écoute, que l'on vous estime, que l'on vous aime. J'en ai le cœur, j'en ai la flamme, j'en ai les bras, j'en ai le coffre, j'en ai la gueule, j'en ai le crâne. Je vous vois partir en distribile, je vous vois partir à Dreuse, à faire les imbéciles avec votre vie amoureuse. Ah,